Bien, je crois que les choix sont faits. Donc ça signifie que les dés sont jetés et que nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a quand même... Non, il n'y a pas de messieurs dans l'assistance ? Non ? Enfin, il y a un monsieur aux manettes là-bas, donc c'est bienvenue à toutes et à tous. Les petites formes, donc, c'est un intitulé...
Heureusement qu'il y a un monsieur dans la salle.
Heureusement qu'il y a un monsieur dans la salle. Il y en a deux, il y a un monsieur à l'accueil également, voilà, donc ça fait deux messieurs dans la salle. Voilà. Les petites formes, qui est donc l'intitulé de cette rencontre, pour moi c'est une rencontre importante, parce que c'est une invitation à s'intéresser aux histoires courtes, aux nouvelles, à ces formes littéraires dont beaucoup s'accordent à saluer l'exigence, parce qu'en matière d'écriture, voilà, les petites formes ont des exigences très particulières dont nous allons bien évidemment parler. Je vais simplement commencer par de courtes présentations. Pierre Crevoisier, qui est donc à mes côtés, vous êtes né dans le Jura. Avant de devenir écrivain, vous avez exercé de nombreux métiers. Vous avez été tour à tour enseignant, journaliste, marin. Alors, je m'intéressais à votre sac à l'instant en imaginant que c'était un sac de marin, mais en fait pas. C'est un sac de cycliste. Voilà. Vous avez été également créateur d'entreprise. Bref, vous avez exercé différents métiers. En 2013 est paru votre premier roman, Elle portait un manteau rouge, aux éditions Tarma, qui est une maison d'édition canadienne. En 2015, vous étiez au sommaire de Désir, qui est un recueil collectif de nouvelles paru aux éditions d'Encre Fraîche. Et puis Mes trous de mémoire, donc le livre dont nous allons parler aujourd'hui, est un livre de nouvelles et il est paru chez Slatkin cette année-ci, en 2016. Claire Genoux, poète et nouvelliste, née à Lausanne. En 1997, paraissait Soleil ovale, votre premier recueil de poèmes, publié aux éditions Empreintes. Saison du corps, chez le même éditeur, en 1999, vous a valu le prix de poésie Charles-Ferdinand Ramu. Poitrine d'écorce, qui était votre premier livre en prose, qui était un livre de nouvelles, est paru lui en 2000 chez Bernard Campiche, suivi d'un recueil de poèmes, Leur apprivoisé, en 2014. Et puis en 2011, il y avait eu un recueil intitulé Faire feu, et puis toujours chez le même éditeur, votre dernier livre, celui dont nous parlerons aujourd'hui, Orpheline, qui est paru cette année. Marie-Hélène Lafont, née dans le Cantal, vous êtes agrégée de grammaire. Vous avez enseigné à Paris et dans sa banlieue.
J'enseigne.
Et vous enseignez toujours. Pour votre premier roman, Le soir du chien, publié chez Buchet-Chastel en 2001, vous avez reçu le prix Renaudot des lycéens. Et vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans et recueils de nouvelles que je ne vais pas tous citer, bien sûr, mais quelques titres tout de même. L'annonce, qui était un roman chez Buchet-Chastel en 2009. En 2012, il y a eu deux livres, un roman d'une part, intitulé Les Pays, et puis ce que vous avez appelé un recueil de choses vues en forme d'abécédaire, qui s'intitulait Album, tous les deux chez Buchet-Chastel. Et puis, le dernier livre en date s'intitule Histoire. Il a reçu le prix Goncourt de la nouvelle et il est publié également chez Buchet-Chastel. Alors, avant de commencer la discussion, la petite surprise, le petit cadeau qui vous est réservé, c'est une séquence de lecture. Alors, on vous écoute tous les trois. Okay. Qui commence, c'est Claire ?
Ouais. Alors, je lis un paragraphe de Pierre.
C'est le micro.
Oui.
Ça marche comme ça ?
Oui, ça marche.
Au fur et à mesure que je m'approchais, les subtilités du paysage se précisaient, s'affinaient. L'image me faisait penser aux photographies d'Ansel Adams, avec je ne sais quoi de plus magique encore. Du premier plan à l'infini, tout y était présent, terriblement présent, d'une précision folle. La profondeur de champ permettait même de distinguer des grains de poussière soulevés par un vent venant de la droite du tableau, les feuilles des arbres, chacune avec leur forme, jusqu'aux lignes de nervures. Le soleil devait être derrière l'objectif. Dans un ciel de début de journée, les ombres avaient la fraîcheur des matins et elles s'étendaient de haut en bas, droites, découpées en minuscules pointillés. Plus je m'approchais, plus je voyais ce paysage s'écarter, s'étaler, se dresser devant moi jusqu'à y pénétrer, un pas de plus, et je pouvais peut-être entrer dans la photographie. Je suis restée longtemps ainsi, au pied de la vitrine. Je n'étais pas fascinée, non. C'était au-delà d'une simple fascination. Je devais savoir.
Je lis deux poèmes de Claire Genoux dans le livre Orpheline. Les cinq. On a été là près d'elle, autour du lit, nous trois et le père. On était autour du lit. On était là comme on était autour des repas, quand elle avait préparé à manger et qu'on mangeait tous sauf elle. Il n'y avait pas de place sur la table pour son assiette. Elle mangeait après. Elle mangeait en même temps qu'elle rangeait ce qu'on avait laissé, la saleté et les restes. On a été là, les cinq, nous cinq, comme on disait, autour du lit. C'était quelques minutes après la fin et le père pleurait. Le corps. Elle dit qu'elle n'y arrive pas, que c'est en elle pour toujours, qu'écrire autre chose que la mort lui est impossible. Il dit non, qu'elle doit écrire d'autres livres, des histoires où elle est vivante, avec des hommes qui aiment, que maintenant, on ne veut plus savoir rien de la mort de la mère. Écrire des histoires d'amour, elle ne sait pas si elle peut. Elle dit qu'écrire, c'est à cause du corps.
Un extrait d'une nouvelle de Marie-Hélène Lafon dans Histoire. La nouvelle s'intitule Jeanne. La chambre était blanche, austère et rangée avec soin. Un paravent de bois clair tendu de bleu dissimulait le lavabo. Le lit était étroit et la table de travail vide. La chambre de Jeanne ne disait rien d'autre que son dénuement. Elle plut à la BH. Il posa les mains sur les épaules de Jeanne. Le cardigan de laine fine glissa au sol. La BH n'embrassa pas le visage de Jeanne. Elle le regardait, bouche close, et il fermait les yeux tandis que ses mains, longues et fines, devinaient au travers du corsage le grain d'une peau neuve. Ce fut une histoire de peau. Il se taisait. Il n'y avait rien à dire. Rien à rêver, seulement à se tendre, à se darder l'un dans l'autre, en houle ronde. Il se retrouvait après la classe, dans la chambre de Jeanne, quand les internes étaient à l'étude et les religieuses à la chapelle pour l'office du soir. Il se saluait en salle des professeurs, ou se croisait dans la cour de récréation, et rien, dans leurs gestes ou leurs regards, ne témoignait de la moindre intimité. D'ailleurs, il n'était pas intime. Il ne le deviendrait pas.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces lectures. Je crois que c'est effectivement important d'entendre les textes avant de commencer à parler. Pour ouvrir cette discussion, j'ai envie de vous soumettre à tous les trois une de vos phrases, Marie-Hélène Lafon, qui est une phrase extraite de votre dernier livre, donc Histoire, qui, j'en profite pour le dire, est un volume qui rassemble vos nouvelles écrites au fil des années. Et cette phrase est la suivante. Nouvelle ou roman, roman ou nouvelle, parfois on ne sait pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Et où ça va aller? Je suis une piste qui s'enfonce dans le maquis textuel. J'y vais, j'avance. Et ensuite, ça devient quelque chose que je n'attendais pas. Cette phrase, elle est importante parce qu'elle dit que la forme, ou plutôt la durée du texte, la durée, son souffle, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement préétabli. Et donc, j'avais envie de vous interroger là-dessus, tous les trois, sur la façon dont vous entrez dans le texte et dont vous prenez une distance par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en forme. Peut-être vous commencez, Marie-Hélène Lafon, puisque cette phrase est la vôtre.
Je suis responsable.
Oui.
Alors, ça n'est que ma vision des choses qui est très opaque et très organique, parce que j'ai un rapport très opaque et très organique à l'écriture. C'est du matériau, c'est de la matière verbale. Et je malaxe. Je dis volontiers que c'est de la viande verbale. Et je malaxe. Et j'y vais au flair. Quand je dis « je suis une piste » du verbe « suivre », c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que y a toujours un désir d'écriture, il y a une nécessité d'écriture, il y a aussi une mise au travail très, voilà, très concrète. Voilà, on se met au travail. Voilà, bon. Et je produis du texte. Mais pendant un certain temps, je ne sais pas, en effet, si ça va être une forme brève, pour reprendre, voilà, ou au contraire, je vais avoir le souffle, c'est vraiment une question de rythme et de souffle, pour pousser cette affaire-là plus loin. Voilà, bon, plus loin n'est pas juste, je dirais autrement, selon une autre rythmique et une autre nécessité intérieure. J'ai eu des surprises, hein. Je me suis vue commencer un texte en pensant que ce serait une nouvelle longue, qui eût été d'ailleurs la première de ce qui eût été donc un livre de nouvelles, et en fait, c'est devenu le roman qui s'intitule Les Pays. Donc vraiment, moi-même, j'ai été la première, vous voyez, étonnée quand j'ai voulu faire la maligne en pensant que, voilà, j'avais peut-être un peu plus de maîtrise et que je pouvais me dire, au fond, là, tu vas faire un livre de nouvelles. En fait, c'est pas ça que j'ai fait. C'est autre chose qui s'est fait. Voilà. Et simplement, cet été, j'ai fait une expérience, pour le coup. Je me suis imposée, dans le cadre d'une commande, je me suis imposée des fragments autour de 1500 signes. Voilà. Donc, au bout de 1500-1600 signes, c'est court, hein, je m'arrête. Et je le sais dès le début. Alors ça, c'est un exercice que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Vous voyez ? Et qui, pour le coup, en ce qui concerne la forme brève, m'a rompu à une autre discipline. Bon, mais
Claire Genoux, vous travaillez également avec cette notion du souffle que vous mettez dans le texte.
Mm-hmm. Oui, alors là, pour rajouter encore un mot à la citation que vous avez faite de Marie-Hélène, cette histoire, que ce soit nouvelle ou que ce soit roman, moi je dirais même que ce soit poème, nouvelle ou roman, pour moi c'est la même chose. Alors peut-être contrairement à Marie-Hélène Lafont, je sais avant de commencer quelle forme ça va prendre, mais je vois, hein, c'était pas prévu comme ça, mais au fur et à mesure de ce que j'écris, que les mêmes choses reviennent soit sous forme poétique, soit sous forme de nouvelles, soit sous forme de roman. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se tisse de livre en livre, et que j'y suis pour rien. Enfin, qu'il y a aussi, je rejoins Marie-Hélène Lafont sur ce côté organique ou de viande. Moi, c'est exactement ça. Enfin, quand je suis devant un texte, j'ai l'impression de devoir, j'ai des bouts de viande que je mets sur le grill et ça doit saisir comme ça, ou comme des crêpes, hein, des choses qui se retournent, qui doivent être saisies. Et là, j'ai l'impression qu'à la fin de recueil de nouvelles, il y a la prose qui demande de nouveau à venir. Et c'est presque comme une suite du recueil de nouvelles, ou au contraire, des poèmes qui suivent un roman vont enchaîner avec ce que j'ai écrit sous une autre forme, dans un autre souffle, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une coupure entre les livres, que c'est la même chose finalement. Et moi non plus, je sais pas ce qui va venir forcément. Je laisse dans mes premiers livres, j'avais l'impression que je devais un peu, pour me rassurer, choisir quelque chose comme des thèmes, mais plus j'avance, plus je vois, il n'y a pas besoin de faire ça. Ce qui doit venir va venir un peu malgré moi. Et c'est assez étonnant de découvrir ce qui apparaît. C'est surprenant.
Pierre Crevoisier, c'est intéressant parce que là, on a commencé avec le souffle et puis il y a la matière qui s'est ajoutée avec ce registre culinaire qui fait qu'on entre vraiment d'emblée dans le corps. Là, c'est le corps du texte qui est tout de suite posé.
Alors, en ce qui me concerne, c'est très, très différent. Bon, il y a plusieurs temps dans l'histoire de l'écriture. Comme vous le voyez, mon premier roman a paru il y a 3 ans, donc j'ai fait un enfant aussi tardivement qu'un roman. Les poèmes et les nouvelles d'avant sont longtemps restés non publiés. Mais parce que enfin, j'avais choisi cette forme-là, parce que j'estimais que j'étais incapable d'écrire un roman, d'avoir le souffle qui me permettait de tenir en haleine sur 150, 200, 300 pages. Et voilà, un jour, je me suis dit non, cette histoire-là, il faut que je l'écrive en roman. Et, et d'ailleurs, pour le suivant, c'est pareil. J'ai un procédé très, très mathématique. Je construis, j'ai un synopsis. Alors, je ne connais pas tout ce qui va se passer dans les chapitres, mais disons que le roman est construit comme un puzzle. Le premier, le suivant, c'était pareil. Et les nouvelles, même si pour moi c'est pas du tout un genre mineur, ce sont des fenêtres que j'ouvre. Aussi parce que les deux romans sont très noirs, sont très sombres, alors que les nouvelles sont tout à fait contraires. Et dans cette pesanteur parfois de l'écriture, de s'investir à tenir le souffle et tenir les mots. J'ai parfois besoin d'ouvrir des fenêtres, et c'est ce que je fais. Je me dis, là, ces trois prochains jours, je vais pas continuer ce roman, et je me pose un défi. Je pars d'une idée, je pars d'une phrase, je pars d'une musique, et je suis parti dans une nouvelle. Et ça va durer le temps que l'écriture va durer, quoi, deux, trois jours, ou un jour, ça peut arriver aussi. Mais ce sont vraiment des fenêtres que j'ouvre, des manières de respirer dans le temps de l'écriture du roman. Ce qui ne veut pas dire que c'est mineur, hein, mais voilà, ce sont des équilibres que je trouve.
J'aimerais bien repartir de ce que vous disiez, Pierre Crevoisier. Quand vous avez commencé, vous craignez de ne pas pouvoir vous engager dans l'écriture d'un roman. Et il est vrai qu'on entend souvent ça, des écrivains dire « j'ai commencé par de la poésie ou par de la nouvelle » avant d'oser... me lancer dans le roman. J'ai souvent entendu cette expression, me lancer dans le roman. Comme s'il y avait une épreuve supplémentaire ou un cran supplémentaire à passer pour entrer dans la forme romanesque. Est-ce que réellement, ça se situe en termes de difficulté d'écriture ?
Si je peux... justement, je réagissais en entendant Pierre parce que moi, je l'ai écrit d'ailleurs dans ce texte qui s'intitule « Histoire ». Moi, quand j'ai commencé à écrire il y a exactement 20 ans, en octobre 1996, j'ai commencé à écrire un texte court parce que j'avais peur. Et je pensais, en effet, je pensais qu'un texte court, c'était moins vertigineux qu'un texte long. Donc, exactement ça. J'avais peur de ne pas tenir la route pour un texte plus long. Donc, j'ai écrit quelque chose de très court qui a donné une nouvelle qui s'intitule « Liturgie ». Qui est dans ce recueil. Et ensuite, j'ai écrit tout de suite après deux nouvelles plus longues, dont Jeanne, dont Pierre a lu un extrait tout à l'heure. Et maintenant, 20 ans après, je pense vraiment que écrire une nouvelle, ça n'est pas plus facile qu'écrire un roman. Du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était de l'ordre de l'illusion. Hein. C'est vraiment, ça procède d'une autre dynamique d'écriture, ça c'est sûr, mais je ne le perçois pas aujourd'hui comme plus facile. Simplement, il y a moins de fil narratif à tenir ensemble, pendant moins longtemps, c'est sûr. Mais du point de vue de l'exigence, elle se situe ailleurs, mais elle n'est pas moindre, à mon sens en tout cas. Et ce que j'ai pensé aussi en écoutant Claire tout à l'heure, ce que nous disons, enfin je ne sais pas ce que Claire va en dire, mais ce que nous disons, elle et moi, du côté organique de l'écriture, c'est-à-dire il y a du texte qui, je dis moi je produis du texte, j'emploie le verbe produire, hein, ou je pourrais presque dire je suinte du texte, hein, quelque chose d'organique qui se ferait presque malgré moi. Alors ça a l'air d'être, voilà, je serais comme une sorte de médium, enfin vous voyez, en fait, il y a du texte, mais après en revanche... Il y a un désir éperdu et pour toujours inassouvi de maîtrise de ce texte. C'est-à-dire que ce texte-là, je le retravaille, malaxe, triture à la virgule et au mot près un adjectif de 5 syllabes ou un adjectif de 3 syllabes ou un adjectif monosyllabique ou pas d'adjectif ou 3 adjectifs. Enfin, voilà, jusqu'au vertige, quoi. Vous voyez ? Donc, du désir de maîtrise, en tout cas, il y en a. C'est pas de l'écriture automatique, hein. Vous voyez, c'est pas juste de la pulsion qui serait jetée comme ça, de la pulsion de matière qui serait jetée. Il y a un désir éperdu de forme. Bon, Voilà.
Claire Genoux, peut-être, sur oui. cette question. C'est intéressant parce que vous qui ne pratiquez pas la forme romanesque, précisément.
J'ai écrit un roman.
Quand même. Un roman, mais ce n'est vraiment pas votre, disons,
j'ai
votre
écrit
registre
deuxième,
habituel.
J'ai écrit le deuxième. D'accord. Bon, là, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Hélène. C'est que, oui, ce qui me frappe dans son écriture, c'est vraiment une de mes auteurs favorites et je suis vraiment très touchée d'être aujourd'hui avec elle. On entend ça quand on la lit, que chaque adjectif a été pesé, mesuré, sa durée syllabique, et c'est ça qui me frappe. Moi aussi, disons, alors ce premier roman que j'ai publié en 2014, il est venu après plusieurs recueils de poèmes, plusieurs recueils de nouvelles, et moi aussi je me suis dit, oulala, comment ça se passe pour écrire un roman. Alors, pour ce premier roman, je me suis dit, ben voilà, je vais écrire 10 nouvelles qui font 10 pages, chaque fois avec le même personnage, mais en me laissant libre de changer l'atmosphère, tout, sauf le personnage. Et finalement, après, c'est la commande d'une nouvelle que j'ai eue pour un recueil, qui a été la nouvelle centrale. J'ai essayé d'élaborer ce roman autour de cette nouvelle, en m'aidant des 10 nouvelles que j'avais produites. Et finalement, elles se sont mélangées. Mais c'est vrai, ce que j'ai trouvé difficile pour ce premier roman, c'est de trouver quelle histoire je voulais raconter parmi les 50 possibles à chaque ligne. Donc il y a quelque chose qu'on doit tenir, comme ce fil narratif. Et en même temps, moi, je suis persuadée qu'on ne doit pas écouter que l'histoire. Moi, j'aime pas les romans qui sont faits que d'une histoire et sans matière, et sans mots, sans poids. Et là, pour le deuxième roman que je viens de commencer, cette fois, je me suis dit, voilà, je ne me donne aucune contrainte, j'écris, on va voir ce qui vient. Et là aussi, je me dis, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas raconter quelque chose, ce n'est pas avoir une thèse. J'aimerais montrer que si on est comme ça, on se transforme de telle manière. Et finalement, bah, y a aussi quelque chose de très organique qui apparaît. C'est un personnage qui est à la fois bûcheron, charpentier, qui habite dans une forêt. Il y a la violence qui est tout de suite arrivée dans les premières pages. Et, j'aime aller à la découverte de ça. Mais c'est vrai que ça demande un souffle de tenir assez haut quelque chose, de tenir longuement quelque chose. Mais moi aussi, une fois que j'ai trouvé cette histoire, là, alors, l'exigence, comme dit Marie-Hélène, c'est vraiment dans chaque mot, même dans les virgules. Est-ce que je mets une virgule là ou est-ce que ça continue? À ce moment-là, je travaille le texte en prose de la même manière que le poème, que les retours à la ligne. Pour moi, le roman, ça ne peut pas être autre chose qu'un long poème tendu et avec son poids. Ouais.
Il y a un autre aspect du sujet que j'aimerais bien éclairer avec vous, qui pour moi est assez mystérieux au fond, c'est la question de la réception des petites formes. Parce que assez généralement, on entend le fait que, de la part des éditeurs notamment, les nouvelles ne seraient pas, je le mets vraiment au conditionnel, ne seraient pas aussi recherchées que l'est la forme romanesque. Et sincèrement, quand on vous entend parler, je trouve que c'est une affirmation très étonnante parce qu'il y a de la littérature là dans les petites formes de manière très, très forte. Comment expliquez-vous cette étrange défection pour les petites formes et pour la nouvelle, de la part des éditeurs, hein, je précise. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Crevoisier ?
Oh, de la part des chroniqueurs littéraires aussi.
Oui.
C'est vrai que j'ai eu ce sentiment. J'ai peu d'expérience, hein, puisque j'ai un roman à venir et ce recueil de nouvelles qui est paru il y a quelques mois. Il n'y a eu aucune presse, par exemple. Alors que pour le roman, il y avait, bon, c'était le premier roman. Il n'y a eu aucun écho médiatique. Pas du tout du côté du public, qui a plutôt bien reçu, mais je pense qu'il y a, en particulier, on n'est pas dans un environnement anglo-saxon où la nouvelle a véritablement ses lettres de noblesse. Alice Munro, prix Nobel de littérature, nous le démontre. Ici, on a toujours le sentiment que la nouvelle est un art mineur. Hein, c'est une production mineure. On l'a dit, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit, je ne me sentais pas capable d'écrire un roman. Alors que j'écrivais des nouvelles qui n'ont pas été publiées. Parce qu'il n'y avait pas la maturité. Hein, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette maturité est là. Aujourd'hui, dans l'univers ici, dans l'univers francophone en tous les cas, on a vraiment toujours l'impression que la nouvelle est considérée comme c'est quelque chose que l'on fait comme un passe-temps ou dans les marges de son existence ou dans les marges de son écriture. Mais elle est perçue comme telle, c'est vrai. Oui. C'est le sentiment que j'ai.
Justement, je me posais la question, je me demandais si c'était en Suisse, ici comme en France. Où vraiment, alors là pour le coup, de la plupart des éditeurs, la nouvelle est tenue en grande suspicion, pour des raisons économiques. Alors c'est la poule et l'œuf. Hein, je ne sais pas où ça commence, mais on en parle moins. En effet, elle est moins visible dans les journaux, dans les espaces qui sont dévolus à la critique littéraire. Quasiment tous les libraires vous diront qu'elle se vend beaucoup moins. Et les éditeurs sont frileux. Enfin, vous voyez, ça, voilà, c'est un cercle vicieux et non pas vertueux. Alors, y a des exceptions cependant, hein, parce que vous voyez Anna Gavalda, par exemple. C'est quelqu'un qui a commencé avec un recueil de nouvelles qui a fait un malheur chez un petit éditeur. Hein, dont le titre était magnifique, j'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Hein, c'est comme ça. Et le dilettante avait fait confiance sur un livre de nouvelles. Alors, vous voyez, il y a parfois des choses étonnantes quand même, hein, dans l'espace éditorial. Et je dois dire, en ce qui me concerne, pour le coup, que j'ai eu énormément de chance. Parce que mon éditeur Buchet-Chastel a publié en 2001 un texte qui était mon premier roman. Mais mes premiers textes écrits étaient donc des nouvelles. Hein, Jeanne, dont Pierre a lu un extrait tout à l'heure, Alphonse, qui est une nouvelle longue aussi, et puis cette nouvelle très courte à laquelle j'ai fait allusion, qui s'intitule Liturgie. Ces nouvelles-là n'avaient pas trouvé preneur. En revanche, avant même que mon premier roman soit paru, en septembre 2001, mon éditrice chez Buchet-Chastel, Pascale Gauthier, m'a proposé de les publier sous la forme d'un livre de nouvelles 6 mois plus tard, en mars 2002, sans même savoir si le premier roman allait être remarqué ou allait passer complètement à la trappe. Hein. Vous savez, chaque année, à la rentrée littéraire en France, il y a 90 premiers romans. Hein. Il y en a la moitié pour lesquels... enfin, qui sont mort-nés, quoi, vous voyez. Donc, je veux dire que mon éditeur a fait un acte de confiance autour d'un livre de nouvelles. Et que ce même éditeur m'a proposé l'année dernière de republier, de rééditer, donc, sous ce titre Histoire, mais 2 livres de nouvelles. Alors ça, vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi rééditer 2 livres de nouvelles? Parce que mes derniers romans avaient été plus visibles et que Pascale Gauthier, mon éditrice, s'est dit, de manière tout à fait judicieuse, que le degré de visibilité supérieur de ces derniers romans que j'avais publiés allait entraîner les nouvelles. Et elle a eu raison. En effet, les nouvelles ont trouvé des lecteurs qu'elles n'avaient pas trouvés lors de leur première publication. Vous voyez, mais c'est un dosage comme ça très subtil, hein, entre romans, nouvelles, et il est évident que si je n'avais publié que des nouvelles depuis que j'ai commencé à écrire, la relative visibilité dont jouissent mes livres actuellement ne serait probablement pas advenue. Hein. C'est vraiment... Et moi, j'ai réfléchi, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui, chez les lecteurs, dans l'espace francophone en tout cas, fait que la nouvelle... Et j'ai une hypothèse, mais il va falloir qu'on la discute. J'ai une hypothèse qui est très romanesque, vous allez voir. Ouais. Ma proposition, c'est la suivante. C'est que, dans la nouvelle, on est trop vite abandonné. Abandonné par le récit. On ne peut pas s'enrouler, s'enfoncer, se lever dans le récit. On est très tôt abandonné. Parce qu'a priori, ça paraît être un format idéal pour les gens qui ont un quart d'heure de trajet le matin, un quart d'heure de trajet le soir, par exemple. Vous voyez ? Ou voire pire, ça existe.
Pour s'endormir.
Pardon ? Ou pour s'endormir. Or, vous voyez ? Donc, voilà, moi j'ai ma théorie de l'abandon. Mais il faut que ça se discute.
C'est intéressant comme théorie. Alors, du coup, j'aimerais bien entendre votre point de vue, Claire Genoux.
Oui, je m'étais aussi posé cette question, comme si, c'est vraiment connu que... Enfin, mon éditeur, Bernard Campiche, il me dit aussi, même s'il publie aussi beaucoup d'auteurs avec des nouvelles, il dit, voilà, si c'est écrit le mot roman sur les livres, les gens achètent, c'est marqué nouvelle, ils achètent moins. Enfin, c'est une constatation qu'il a faite. Je suis très sensible à l'hypothèse de Marie-Hélène. Oui, je pense que donc chaque nouvelle est contenu, peut être contenu tout un roman possible. C'est ça peut-être qui fait qu'on va se sentir abandonné. C'est qu'on sent, enfin, je pense que les nouvelles qui sont bien faites, c'est quand on sent qu'il y a une histoire possible qui pourrait s'allonger. Mais au contraire, on coupe. Enfin, moi, dans les nouvelles que j'ai écrites, j'aime bien laisser le lecteur seul à la fin, c'est vrai, couper sans donner la clé, sans tout expliquer. Alors, je pense, oui, que ça pourrait être... moi, je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse.
Moi, ce que j'aime bien dans votre hypothèse, c'est l'idée qu'au fond, avec l'abandon, le lecteur serait une sorte d'enfant qui se laisserait bercer par le texte et la nouvelle le laisserait tomber. Voilà.
C'est les bras du récit s'ouvrent et vous laissent choir. Vous êtes seul et nu dans le monde. Ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Enfin, je ne sais pas, hein, je tâtonne. Mais Pierre a une idée, je sens.
Non, mais vous l'avez dit avec des mots beaucoup plus précis. Je dirais que c'était dit l'abandon. J'avais pas ce mot-là à la bouche, mais il est... Effectivement, pour moi, il résume très très bien ce sentiment que peut avoir le lecteur. Donc, je suis aussi lecteur, et parfois, quand on lit un roman, on aime suivre, on aime participer, on aime se laisser emporter. Et c'est vrai que la nouvelle ne nous permet pas cet abandon-là. La nouvelle, pour moi, elle ne doit pas rester sur une suspension. Elle doit avoir un monde en soi. Hein, c'est une goutte d'eau. La goutte d'eau a une forme parfaite. Hein, on ne regrette pas la mer parce qu'on voit la goutte d'eau. La nouvelle, ça doit être une goutte d'eau qui a cette forme-là. Hein, la mer, on pourra naviguer plus tard, on pourra se perdre, naviguer sans étoiles à d'autres moments dans le roman. Mais la nouvelle, elle doit être là, aussi belle qu'une goutte d'eau, qu'une note de musique, la note de musique ou le silence lui-même. Et sans doute, cette difficulté à se contenter juste d'une observation ou d'un souffle, d'une goutte, voilà.
Moi, ce que j'aime dans la lecture des nouvelles, c'est quelque chose qui est presque comme arraché. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est... J'aime beaucoup lire des nouvelles. Il y a quelque chose comme une gifle. Des fois, on se dit, mais comment c'est possible qu'en quelques pages, on ait reçu ce coup comme ça dans la figure. Moi, je trouve que c'est... Alors, oui, voilà, c'est un tout autre genre que le roman. On peut être accompagné, ça peut aussi être très intense. Mais les belles nouvelles très intenses, c'est un coup de poing. On se dit, comment est-ce que ça peut être raccourci à ce point, mais beau est tellement intense. C'est pas une petite forme qui dit, oui, en fait, j'ai pas le temps d'écrire un roman, alors je fais juste une petite nouvelle. Pas du tout. Ça, c'est des nouvelles ratées quand les auteurs font ça.
Mmh. Oui, ça serait le triomphe de la forme. Voilà. Vous dites dans la perfection, l'idée de la perfection. Je pense, alors, moi je pense à une nouvelle que j'ai relue tout récemment la semaine dernière, une nouvelle de Primo Levi qui s'intitule La Grande Mutation. Et c'est un des derniers textes qu'il a écrit. Primo Levi publiait des nouvelles dans la Stampa. À cette époque-là, c'est à 83, il publiait des nouvelles dans le journal, quoi. Vous voyez, ça c'est formidable. Et le dernier mot de cette nouvelle, c'est le verbe amputer. Dans cette nouvelle, il s'agit en fait d'une mutation qui affecte le genre humain, auquel, à certains élus, on va dire, des ailes poussent dans le dos. Vous voyez, bon. Et le dernier mot, c'est amputer. Eh bien, justement, c'est la perfection de la goutte. Voilà. Avec ce mot-là qui est d'une grande cruauté, on prend une gifle, en effet. En effet, il y a une violence dans le récit. Voilà. Une forme parfaite trouve son jet, quoi. Voilà. Bon. Et alors, justement, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut une sacrée maîtrise pour faire ça. C'est pour ça que je pense profondément, pour l'avoir éprouvé, qu'écrire une nouvelle juste n'est pas plus facile qu'écrire un roman. C'est peut-être même plus acrobatique.
Mais en même temps, si je peux me permettre d'ajouter
bien
quelque
sûr,
chose,
bien sûr,
on vous entendra peut-être tout à l'heure.
Oui, parce que vous avez votre avis.
Vous avez votre avis. Et pour le lecteur, ça demande chaque fois d'entrer dans un univers, d'apprivoiser des personnages, d'apprivoiser, etc., de comprendre. Mm-hmm. Hein, et puis, au moment où il a l'impression d'avoir entendu, hop, on s'envole.
Mm-hmm. Ouais. Voilà.
Bon, j'aimerais qu'on consacre quand même un tout petit moment pour parler de vos derniers livres respectifs, même rapidement, avant de reprendre une conversation plus large. Marie-Hélène Lafont, j'avais envie de retenir cette première nouvelle dont vous avez cité le titre déjà tout à l'heure, qui est reprise dans l'histoire, qui est « Liturgie ». Elle raconte ce père qui, chaque dimanche, se lave à l'eau très chaude, dans une salle de bain qu'il a lui-même fait construire, dans une ferme où il n'y en avait pas précédemment. Et chaque dimanche, il appelle à tour de rôle l'une de ses filles pour venir lui frotter le dos. C'est très frappant quand on vous lit depuis longtemps de voir que dès le premier texte, d'emblée, il y a quelque chose qui est essentiel chez vous, qui est le corps. Tout de suite. C'est là. Voilà.
Oui. Elle dit qu'écrire, c'est à cause du corps. Oui. À cause du corps, avec le corps, au sujet du corps. Urbi et orbi, il n'y a pas à sortir de là. Enfin, moi, je ne peux pas en sortir. Voilà. Donc, en effet, le premier texte que j'ai écrit, c'était celui-là. J'avais 34 ans. J'avais depuis toujours le désir d'écrire, depuis que je savais écrire et lire, comme on l'apprend au CP. Hein. Et je n'avais jamais écrit une ligne, donc longue rétention. Hein. Et paf, c'est celui-là que j'écris. Donc, le corps du père... j'ai eu une longue éducation catholique, donc liturgie, le dimanche matin, enfin bref, on a tous les sacrements, hein, bon. Je fais ça. Bon. Et pour le coup, c'est celui de mes textes que j'ai le moins retravaillé, que j'ai le moins retouché. Et je l'ai envoyé à Pierre Michon. C'est un texte sur le corps du père que j'ai envoyé au père en écriture. C'est-à-dire à celui dont la lecture, pour moi, a été tellement décisive qu'elle m'a collé au mur de l'écriture. Après avoir lu Pierre Michon, Richard Millet et Pierre Bergoglio, dans la foulée, entre automne 95 et automne 96, que je me suis dit, cette fois-ci, tu y vas, tu écris, sinon tu passes à côté de ta vie. En tout cas, tu essayes. Et je l'ai envoyé à Pierre Michon, ce texte-là. Et ce que Pierre Michon m'en a écrit, me répondant dans une grande magnanimité, je dois dire, a été décisif en ce sens qu'il m'a dit qu'il fallait travailler. Voilà. Et j'ai travaillé. Donc c'est un texte un peu... Oui, c'est un texte... C'est le premier, quoi. C'est un texte fondateur. Et bon, il m'arrive de le lire en public et il est d'une grande... comment dire bah, tenez, pour le coup, il y avait le mot intime dans Jeanne tout à l'heure. Il est d'une grande intimité.
Intimité.
On fait comme on peut, hein. Je dis toujours qu'on fait les livres qu'on peut. Et les textes qu'on peut. J'ai pas pu ne pas faire celui-là.
Pierre Crevoisier, Mes trous de mémoire, donc, est un recueil d'histoires brèves. Il y en a 11. Celle-ci, par exemple, qui s'intitule L'homme sans nez, qui relate l'histoire d'un ancien cuisinier, très réputé, qui a perdu et le goût et l'odorat, et qui est enfermé dans une clinique psychiatrique. Alors, quand je raconte l'histoire comme ça, on peut penser que, d'abord, c'est un sujet grave et qu'il y a un traitement tragique. Or, ce n'est pas le cas du tout, parce qu'il est traité, ce sujet-là, comme tous les autres, d'ailleurs, avec une sorte de légèreté, mais ou plutôt de fantaisie, qui est vraiment la grande caractéristique de ce recueil d'histoires. Et je me demandais si précisément la forme courte ne vous autorisait pas cette fantaisie que vous auriez peut-être plus difficilement pu pratiquer à l'intérieur, par exemple, du roman.
Oui, pour inviter le lecteur à regarder sous les jupes des arbres,
oui.
Qui est une phrase... Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, les romans sont plutôt sombres. Il faut avoir une bonne assurance vie pour y entrer. Et c'est vrai que la nouvelle, pour une part, en tous les cas, me permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir des fenêtres et d'avoir plus de... Enfin, d'entrer dans l'imagination. D'ailleurs, aux gens qui venaient tout à l'heure et qui s'intéressent de temps en temps à ce recueil, je leur dis, est-ce que vous avez des trous de mémoire ? Alors, bien sûr, on me dit, ah oui, ça m'arrive de plus en plus souvent. Je dis, j'ai un truc pour vous. Vous pouvez bientôt remplacer vos souvenirs par l'imagination. Et voilà, ça permet de créer le lien. Voilà. Et c'est vrai que ça marche assez, ça permet le dialogue, etc. Ensuite, de pouvoir démarrer sur autre chose. Bon, y a ça, et puis il y a le plaisir. Je crois que la forme courte aussi me permet aussi de l'utiliser dans le cadre de la lecture. J'adore lire. Hein, j'adore lire et c'est aussi un des moteurs chez moi. Et la forme courte permet ça, ça permet un échange rapide. Nous avons d'ailleurs un projet qui s'appelle La Maison Éclose, où nous invitons des auteurs à écrire un texte. Là, en l'occurrence, ça vient d'avoir lieu. L'événement 2016 vient d'avoir lieu au Jardin botanique de Lausanne, où nous mettons un certain nombre de petits salons de lecture où les gens peuvent venir, les visiteurs peuvent venir et se faire lire par l'auteur en intimité. Une personne et l'auteur. Et voilà, le roman permettrait difficilement ça. Même un extrait du roman, là, on est dans la goutte d'eau de l'échange, du partage.
Claire Genoux, orpheline, votre dernier livre est désigné comme poème. Alors certes, il s'agit de poésie, indéniablement, mais c'est une poésie narrative. Et on oublie souvent que la poésie peut détenir une dimension narrative. Les gens imaginent assez volontiers que la poésie ne raconte pas d'histoire, alors que votre recueil montre très bien ça. La poésie sait faire cette chose qui consiste à raconter une histoire.
Oui, et ben particulièrement dans ces poèmes-là, vu que ce n'est pas un livre que j'ai choisi d'écrire, il m'a été imposé par la vie, comme c'est des poèmes que j'ai écrits pendant et suite à la disparition de ma maman. Et donc là, voilà, je pensais bien qu'une fois j'écrirais un tel livre, mais pas déjà maintenant. Donc là, il y a bien sûr, je n'ai pas eu besoin d'inventer aucune histoire. L'histoire m'a été donnée, comme ça, et une histoire tragique au sens grec, avec l'unité de temps, de lieu, d'action, 10 semaines. Et donc là aussi, avec quelque chose qui demandait à être raconté. Effectivement, peut-être pour d'autres recueils de poèmes, il y a plusieurs thèmes qui peuvent apparaître. Là, il n'y a qu'un seul et même thème. Et à un moment donné, tous ces poèmes arrivaient, hein, j'aurais pu encore continuer sur 200 autres poèmes, je me suis demandé est-ce qu'il fallait que je les regroupe selon une certaine chronologie. L'annonce, la maladie, etc. Et en fait, non. Je me suis dit, ça peut être comme dans un roman, il y a des retours en arrière, il y a des flashs vers le futur, l'instant présent. Et en fait, je les ai laissés pratiquement dans le même ordre qu'ils sont arrivés. Et effectivement, c'est une histoire là, qui est racontée. Je suis sûre que si on enlevait ces retours à la ligne, qu'on publiait une petite plaquette, on le verrait aussi comme un texte en prose. Là, je me suis sentie, j'ai vraiment découvert que finalement, il n'y a pas de différence. Je suis sûre que si on prenait un bout de mon roman et qu'on passait à la ligne au bout de quelques mots, on pourrait dire que c'est de la poésie. Enfin, c'est ce que j'expérimente, moi.
Je peux. Vous parleriez de chapitres, alors, par exemple, dans le livre, puisqu'il est composé, et d'ailleurs, les titres sont très beaux, hein, « J'irai t'aimer sous la terre »,« Le monde de la maison ».
Oui, pourquoi pas, mais en même temps, cette maison, elle apparaît dans le chapitre de la maison, mais elle réapparaît avant ou après. Comme dans des romans, on peut aussi voyager. Moi, j'aime bien les romans quand on revient en arrière, il y a comme des appels d'air vers l'avant, vers le passé.
Et dans le livre, d'ailleurs, il y a donc « J'irai t'aimer sous la terre » ou, pour le coup, quelques pages en italique où Vous êtes dans la prose poétique, c'est-à-dire on a du paragraphe comme ça. Oui. Vous voyez oui, et alors ça m'a beaucoup interrogée. Enfin, pardonnez-moi, je...
Oui, non, mais si, c'est tout à fait dans notre sujet, donc oui.
Ce qui m'étonne avec ces moments de prose, en fait, bon, les lecteurs n'ont peut-être pas vu ça d'après les retours que j'ai eus. J'avais envie de donner la parole à ma maman. C'est comme si c'était sa voix avec le jeu, mais ça pourrait être aussi la mienne. Mais finalement, dans ce moment de prose poétique, c'est là où la langue est la plus lyrique, à mon avis, alors que dans les poèmes, il y a quelque chose qui est narratif. Ça, j'ai découvert un peu après coup que dans cette forme de prose, je me suis permis d'aller plus vers le lyrisme, pour lequel des fois je me méfie un peu. Et finalement, c'est un peu l'inverse, comme quoi ces formes sont assez perméables. On n'est plus, il me semble, dans une époque où avant on avait le roman, le poème, tout était très séparé. Et là, pourquoi pas, c'est cette perméabilité entre... Ouais.
Ça, c'est intéressant, la question de la perméabilité entre les genres.
Oui,
vraiment. Il me semble qu'il y a de plus en plus de pratiques, de formes
hybride, on peut peut-être oser ce terme-là, et c'est intéressant que ça puisse exister.
Mais justement, dans Orpheline, il y a des personnages.
Tout à fait.
Il y a la mère, le père, les trois filles, dont la fille narratrice, et il y a la maison qui est un personnage.
Il y a les lieux, voilà.
Et le jardin.
Oui. Et puis des objets aussi, beaucoup d'objets.
Oui.
Donc la reconstitution d'un univers qui effectivement a tous les dispositifs d'une histoire en train d'être racontée.
Et très très incarné. Et c'est ce qui m'a paru faire un fil rouge entre les trois livres, parce que le livre de nouvelles de Pierre est saturé de corps, et surtout, me semble-t-il, pardonnez-moi, de corps de femmes qui apparaissent. Oui. Au sens où Madame Arnoux apparaît dans l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Ce fut comme une apparition. Vous voyez, c'est le corps d'une femme qui s'incarne et qui change le monde. C'est très présent dans votre livre. Enfin, est-ce que j'exagère ?
Non, pas du tout. J'ai un ami qui m'a dit, dans toutes tes nouvelles, tu as soit le nez, soit le cul.
Voilà. Moi, pas comme ça, mais
voilà.
C'est ça. Hein.
C'est ça, voilà. C'est résumé, mais de façon... C'est très efficace, c'est ça. Exactement, exactement. On va donner la parole...
C'est Daniel Rosis qui m'a dit ça, donc vous le connaissez.
D'accord. Bon, d'accord, donc il va... On va donner la parole au public, mais j'avais quand même une dernière question que j'avais envie de vous poser. Je crois que c'est vous, tout à l'heure, Claire Genoux, vous disiez... pour moi, le sujet n'est pas très important, ou ce qui m'importe n'est pas nécessairement le sujet. Mais est-ce que précisément, certains sujets imposent une forme, une durée ? Est-ce qu'il y a un lien entre le sujet et cette question du souffle, justement ? Est-ce que certains sujets vont se couler naturellement dans une forme brève, et d'autres ont besoin de plus de temps, plus de...
Moi, je reste perplexe au bout de 20 ans là-dessus.
Ouais, moi,
totalement perplexe. Vous voyez, en ce moment, j'ai un chantier en panne. J'appelle un chantier un travail d'écriture, en panne depuis plusieurs années. J'ai même pensé qu'il était mort, mais en fait, il ne l'est pas. C'est une histoire qui m'a été fournie par la vie. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font qu'on est placé devant la nécessité de les raconter. J'en ai été le témoin. Elle est tellement romanesque, tellement foisonnante, que je ne sais pas quoi en faire. Vous voyez ? A priori, on dirait, on va faire un bon gros roman de 500 pages. Marie-Hélène Lafont va faire un roman de 500 pages, vu que j'ai jamais dépassé 200. Hein ? Voilà. Mais ça me dépasse complètement. Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas quoi en faire. Donc, vous voyez, j'ai commencé quelque chose qui pose depuis quasiment 4 ans. Ça ne m'est jamais arrivé de laisser poser aussi longtemps. Je laisse poser beaucoup, le texte. Mais 4 ans, c'est plus de la pause, là. Vous voyez et là, pour le coup, il me semble que le sujet, en effet, commanderait une forme. Et j'aurais envie de dire, voilà, un bon gros roman. Hein, bien, bien confortable, avec lequel on a rendez-vous le soir, qu'on reprend, enfin, vous voyez. Mais je ne suis pas certaine d'être capable de faire ça. Peut-être que ça va se terminer en 10 pages émaciées. Je ne sais pas. Et j'ai aucune expertise là-dessus.
Oui, moi je suis d'accord aussi. Je rejoins tout à fait Marie-Hélène. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, je me disais, bon, il y a des sujets qui sont faits pour être écrits sous forme poétique, d'autres sous forme nouvelle, et j'en suis de moins en moins persuadée. Suite à l'écriture de ces poèmes d'Orpheline, où il y a ce monde de la maison qui est très présent, ben, dans le projet en prose que j'ai maintenant, cette maison est omniprésente. Et encore plus avec des arts, plus de nature, donc ce sera visiblement un des thèmes de mon futur roman. Donc visiblement, cette maison qui apparaissait dans la forme courte, elle a encore besoin de s'exprimer dans quelque chose de plus long. Alors je la laisse s'exprimer.
Pierre Crevoisier.
Un peu pareil, c'est vrai que je me dis toujours par rapport à une idée, est-ce que c'est une idée qui me permettra de traverser la mer ou de danser sous la pluie, de sentir les gouttes. Je vais vous raconter juste une petite histoire par rapport à une idée. Je ne sais pas ce qu'elle deviendra. Récemment, je participais à Orléans à une rencontre de famille. Et nous étions dans une maison que nous avions empruntée. Et c'était une maison paysanne avec toutes les photos de famille qui n'étaient pas la nôtre. Hein ? Et toutes les photos de famille étaient là, etc. Et voilà. Ça, Je ne vous en dis pas plus.
C'est un excellent départ de piste.
Ouais, voilà. Deux familles qui ne se connaissent pas, une emprunte la maison de l'autre, et toutes les traces de la première famille se trouvent là. Des dizaines d'années d'histoire, etc. Qu'est-ce que ça deviendra ?
C'est un bon exemple.
J'ai juste envie de faire une remarque. Moi, il me semble, en ce qui me concerne en tout cas, que l'humour commande la brièveté. Vous voyez ? Ça, c'est une sacrée question que je me pose. Comment ça vient, l'humour, dans un texte ? Vous voyez ? Ce qui est drôle, voilà. Et souvent, c'est quand même une élégance minimale à avoir quand on raconte des choses très graves. Et ça me semble avoir quelque chose à faire avec la forme brève. Mais bon, je me pose des questions.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'humour dans La recherche du temps perdu ?
Si, il y en a chez Flaubert aussi, il fait 500 pages.
Voilà, c'est ça.
Ouais, non, on n'en sort pas de cette affaire, mais quand même. C'est quand même, ça m'interroge beaucoup.
En tout cas, pour la fantaisie.
Oui, oui.
Que le recueil de Pierre Crevoisier illustre très bien. C'est vrai que...
Dans les trous de mémoire, c'est manifeste, ça.
Mais j'avais toujours rêvé d'écrire mes trous de mémoire, je l'ai fait. Donc...
Ouais. Bien, on peut peut-être élargir la conversation et effectivement avoir vos points de vue à vous, de lecteur, sur ces formes brèves, sur la lecture de la nouvelle. Et voilà, sur... Oui ?
Je suis très attentive à ce qu'a dit Madame Lafont au sujet de la difficulté d'écrire une nouvelle par rapport à un roman. Et en fait, pour moi, c'est peut-être ce que vous avez dit de l'abandon, etc. C'est juste. Mais je pense que c'est aussi beaucoup plus difficile pour un lecteur de lire une nouvelle que de lire un roman. Parce que je suis immense lectrice. Et j'ai mis très très longtemps à découvrir le plaisir de la nouvelle. Parce qu'il faut d'abord y entrer. Et une fois qu'on y est entré, on sait que c'est pour peu de temps. Alors là, j'ai rejoint l'idée de l'abandon, c'est très difficile. Et puis, ça demande un effort. Ça demande un effort pour entrer dans la chose, pour comprendre. Et puis souvent à la fin, ça demande un effort parce qu'on est entraîné dans l'imaginaire et se dire comment est-ce que ça continue ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et je pense que c'est un art beaucoup plus difficile également pour le lecteur.
Moi, il me semble, mais bon. Tu... Oui ?
Le micro, ça va être plus agréable pour tout le monde.
Oui, je me disais que ça a aussi à voir avec la concentration. L'écriture de la nouvelle est concentrée, au fond, très dense, et ça exige aussi une concentration du lecteur. Moi, je suis entrée dans les nouvelles plutôt par les short stories, effectivement anglaises, qui sont peut-être parfois plus longues aussi, mais effectivement, tout ce que vous dites nous donne grande envie de les lire, de ces nouvelles. Mais, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres... Question, intervention.
J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit à propos du public de la nouvelle. La désaffection du public pour la nouvelle n'est-elle pas due justement à une différence de classe entre les lecteurs ? Ce que tente à dire Madame en disant que la nouvelle est exigeante. Et la nouvelle... n'est pas enseigné dans les écoles. Dans les écoles, les enfants sont dirigés plus facilement vers les romans que vers les nouvelles. Quels sont les lycéens, quels sont les gymnasiens qui ont eu un contact avec des nouvelles comme celle de Maupassant, par exemple? Maupassant a écrit énormément de nouvelles, vous êtes d'accord. Julien Green aussi a écrit beaucoup de nouvelles. Mais ce sont des auteurs, finalement, qui sont délaissés par les enseignants, me semble-t-il.
Pour le coup, juste, je ne sais pas ce qui se passe ici en Suisse, mais en France, par exemple, les nouvelles de Maupassant sont dans tous les manuels scolaires au collège. C'est très très présent au collège. Vous voyez par exemple Maupassant. J'allais justement vous dire, dès que vous avez commencé à dire dans l'univers scolaire, moi j'enseigne, et il se trouve que j'enseigne en collège en plus, et pour le coup, il y a une... Alors, pourquoi des nouvelles au collège? Je ne sais pas comment sont les collégiens suisses, mais les collégiens français, souvent, quand on leur dit, voilà, il va falloir lire ça, et combien de pages, madame? 12. 12. C'est court. Bon, vous voyez. Donc, pour le coup, je ne sais pas si c'est une illusion ou pas, mais la nouvelle est très présente dans l'univers scolaire des collégiens en France. Hein. Moins des lycéens, en effet, pour lesquels les romans sont davantage prescrits. Mais je crois que cette idée de, cette piste de l'exigence, hein, de l'exercice demandé au lecteur, est bonne à suivre, quoi, hein, et expliquerait en effet en partie pourquoi beaucoup de lecteurs, renâclent devant la forme brève, enfin la nouvelle en tout cas. Mais bon, si on avait une explication et surtout une recette, il n'y a pas à douter qu'on aurait trouvé une solution au problème. Hein. Vous voyez, si tant est que ce soit un problème, n'empêche que, du point de vue des éditeurs, en tout cas, je répète, même si j'ai la chance d'avoir eu une expérience très positive, en France, en tout cas, je peux vous assurer que les éditeurs, ils sont d'une frilosité insensée. Vous avez peut-être déjà lu des nouvelles d'Annie Saumont. Annie Saumont, c'est vraiment une grande nouvelliste française. On l'a harcelée pendant des années pour qu'elle écrive des romans. Et elle-même, elle dit que c'était pas, elle disait que c'était pas possible, elle n'y arrivait pas. Elle en a écrit un ou deux qui étaient. Elle dit elle-même que c'était rien, quoi. Vous voyez. Mais elle était au seuil, je crois, Alain. Vous voyez, il y avait une pression phénoménale. Et elle a continué à écrire des nouvelles.
Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Oui.
Oui. Peut-on, justement, à cause de l'exigence que demande les nouvelles, la lecture de nouvelles, peut-on comparer l'écriture d'une nouvelle à l'art pictural? Parce que vous avez parlé de Pierre Michon, et c'est du Bruegel, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, il part d'un tableau pour Léonce. Donc, je crois que, justement, ça demande une synthèse, ça demande des nuances, des touches de couleurs formidables qui ressemblent à l'art pictural. Et... je trouve que les cinéastes devraient s'emparer davantage des nouvelles, car ça laisse justement aux cinéastes des plages à composer.
Dans cette intervention, il y a aussi une dimension intéressante, ce qui est peut-être le fait que la nouvelle laisse plus de place à l'imaginaire du lecteur, puisque... la chose s'achève, mais après tout, chaque lecteur peut s'emparer lui-même d'une sorte de continuité à donner au texte, ce que le roman ne permet pas trop quand même, parce que en général, le roman est assez... a fourni la matière, on peut dire ça peut-être.
Moi, je ne sais pas ce que je sens là dans cette exigence de la nouvelle, à la fois dans la lecture, à la fois dans l'écriture, c'est que... Avec le roman, j'ai l'impression on a le temps, on a plusieurs pages pour rentrer. Avec la nouvelle, celui qui l'écrit, on doit tout de suite être dedans, ça doit tout de suite être là. Le monde doit être là entier. Alors que le roman, on peut plus prendre de temps, je pense, pour poser l'histoire ou comme ça. De la nouvelle, enfin, celles qui sont réussies, c'est vraiment paf, on entre là-dedans, peut-être.
Oui. Je reprends la piste de la comparaison avec le tableau, avec l'art pictural, avec dans une nouvelle réussie, au fond, ça serait comme un tableau qui vous cloue au mur, quoi. C'est-à-dire, il est cloué au mur et vous le prenez en pleine poitrine. C'est-à-dire, il y a une incarnation immédiate. Et dont on peut avoir le sentiment, le monde entier est là, c'est-à-dire qu'elle est totale. Quand bien même, elle serait ramassée en 10 pages. Et en effet, ça confirme l'intuition selon laquelle c'est quand même sacrément exigeant, quoi, acrobatique, pour celui qui l'écrit et pour celui qui la lit. Bon, et c'est pas avec ce genre de considération qu'on va faire monter les... les chiffres des ventes. Mais n'empêche que, voilà, moi, si je réfléchis à ça, c'est là-dessus que je tombe. Hein.
Alors, bon, je comprends bien l'idée de clouer au mur, mais après, on en fait quoi ? Il y en a un qu'on a suspendu il y a quelque temps. Bon. Non, je me dis, je préférais par exemple l'idée d'emplir. Hein. Si un texte, si la nouvelle, effectivement, permet d'emplir, et à partir du moment où on l'a lu, on a l'impression d'avoir, de laisser le temps se suspendre et qu'on peut respirer avec, et peut-être s'endormir, quoi, hein, ou rêver, ou imaginer, ou se balader, ou s'égarer, ou se perdre. Là, c'est réussi.
Moi, j'ai un rapport violent au monde.
Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question ? Moi, j'en avais une dernière. Alors, et puis, ça a été alimenté par ce que vous disiez tout à l'heure, Claire Genoux, sur la maison. Lorsque vous disiez que la maison dont il est question dans Orpheline, vous êtes en train de la retrouver dans un texte en chantier, un texte romanesque. Ça me fait penser, Marie-Hélène Lafon, à ce que vous dites dans Histoire, à la suite d'un roman, votre premier roman, Le Soir du Chien, il restait de la matière, en l'occurrence un personnage, qui est devenu le personnage d'une nouvelle, Roland. Cette idée qu'il reste quelque chose qui peut être retransformé, mais alors dans une autre, ça je trouve que c'est intéressant.
J'aime beaucoup il restait de la matière.
Oh ben oui,
c'est... Et on rejoint tout à fait la chose picturale. Il restait de la matière, voilà. Dans Le Soir du Chien, il y a donc un personnage qui est un personnage, a priori, qu'on devrait qualifier de secondaire. Le personnage principal étant Laurent. Et ce Laurent a un ami, mais un homme effacé, hein, à la vie rabotée. Il est menuisier et sa vie est rabotée. Et il s'appelle Roland, et dans le roman, il se suicide. Et quand j'ai écrit hier, Roland s'est suicidé, il s'est pendu dans l'atelier avec ses bottes. Et là, cette phrase-là, elle est venue, alors que je n'avais pas du tout prévu, à la suite d'une collision de vie, le suicide de quelqu'un dont j'ai été témoin, eh bien, ce Roland en question, j'ai senti qu'il devenait le personnage principal. J'ai poussé le roman jusqu'à la fin, c'était mon premier roman, hein. Voilà, mais je n'avais pas fini. Et quand j'ai su que ce premier roman allait être publié, j'avais un an entre octobre 2000 et octobre 2001. Quand j'ai su qu'il allait être publié sous la forme sous laquelle je l'avais écrite, j'ai éprouvé la nécessité absolue de repartir de cette phrase hier. Roland s'est suicidé, il s'est pendu dans l'atelier avec ses bottes, et j'ai réécrit une histoire qui s'intitule Roland, où il devient le personnage principal. Parce qu'en effet, il restait de la matière. Et je peux même vous dire, ça c'était ce roman, Le Soir du Chien, je l'ai écrit entre le lundi de Pâques de l'année 1998 et la fin de l'année 99. Vous voyez ? Donc, c'est il y a longtemps. Hein. Et j'ai toujours pas fini. Avec ce Roland, j'ai toujours pas fini. Et la raison pour laquelle j'ai pas fini, notamment, c'est que ce Roland en question, il part, comme tout, absolument tous les personnages et tous les lieux de mes livres et tous les motifs de mes livres, il part du réel. Il vient du réel. Il m'est donné par le réel. Il y a vraiment un menuisier que je connais qui s'appelle Roland, qui s'est pas suicidé du tout, hein, c'est quelqu'un d'autre qui s'est suicidé. Et ce Roland-là, entre la fin de l'année 99 et aujourd'hui, dans sa vie d'homme, il est arrivé des choses tellement stupéfiantes, le réel est tellement stupéfiant, le réel est tellement foisonnant, que je pourrais faire 500 pages autour du Roland en question. Vous voyez, donc la matière, il y en a trop. Toujours il faut élaguer. Toujours, toujours.
Oui, moi je suis aussi persuadée et de plus en plus convaincue que quand on termine un livre, c'est pas fini. Enfin, l'histoire, oui, bien sûr, on met un point final, on le donne à notre éditeur, mais des choses continuent dessous, souterrainement. Et cette histoire de la maison, bah, là aussi, c'est venu de quelque chose de très réel. C'est que suite à la disparition de notre maman, on a vendu cette maison où elle habitait, qui était aussi la maison de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et donc, faire le deuil d'un endroit comme ça, c'est presque impossible. Mais je me suis dit, Claire, c'est pas grave, tu vas écrire ça. Elle va toujours être là. Ça vient du réel, même si cette maison, elle se transforme, elle s'agrandit, elle s'entoure d'arbres, mais c'est cette maison, et ça va continuer, je suis sûre, sur plusieurs livres, ça ne me fait pas du tout peur, ça va rester là, parce que ça vient du réel, ça, je suis persuadée aussi que la vie nous met face à des événements souvent très romanesques, où il n'y a presque pas besoin d'inventer, il n'y a qu'à conduire, tout est là, tout vient de nos histoires, de nos corps, de nos familles, des choses qu'on vit. C'est pour ça que je me méfie des histoires qu'on essaie de raconter. Ah voilà, j'ai envie d'écrire telle histoire. Non. On n'a qu'à écouter ce qui est là et donner foi à ce qui arrive.
Donner forme.
Vous avez laissé les photos dans la maison ?
Pardon ?
Vous avez laissé les photos dans la maison ?
Non, alors on a tout débarrassé.
Ah oui,
l'histoire des photos dans la maison. Ah. Ouais.
Et quand Claire dit ça continue, quelque chose continue, les histoires que nous écrivons, auxquelles nous donnons une forme, brève, longue, une forme, la forme qu'on peut, enfin, pour moi, la forme que je peux, elles continuent dans nos vies, mais elles continuent dans les vôtres aussi. Moi, c'est ça que j'ai découvert en accompagnant mes livres.
Bien, mais écoutez, merci infiniment tous les trois pour ce très beau moment de partage autour des petites formes. Et puis bien sûr, on vous retrouve en signature, j'imagine, tout de suite sous la tente. Voilà, donc vous pouvez retrouver...
Pour moi, pas tout de suite, parce que j'ai un entretien là, bon. Mais j'irai après, en début d'après-midi.
En tout cas, vous pourrez prolonger la conversation qui a eu lieu ce matin en allant voir Pierre Crevoisier, Marie-Hélène Lafont et Claire Genoux derrière leurs stands respectifs. Merci beaucoup.
Comptoir, moi je dis comptoir. Ouais, et on l'écrirait C-O-N-T-O-I-R.
Ah, pas mal le comptoir.
Stand, oui, moi j'aime pas stand.
C'est pas très
j'aime
chic,
comptoir. Merci.